Soyez les bienvenus, vous tous, frères et sœurs, qui venez participer à cette deuxième conférence de carême, enfin ce deuxième entretien de carême. Je ne vais pas rivaliser évidemment avec Notre-Dame de Paris. Voilà, je vous propose qu'on commence par chanter. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour les bien portants, je viens pour les malades, les pécheurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Dans ce temps de carême, il a paru opportun de réfléchir un peu plus à cette dimension qui marque nos vies quand même, qui est le péché. Ben écoutez, je parle dans le micro pourtant, hein, j'y peux rien. Et voilà, donc nous sommes conscients que le péché est une réalité que nous avons à combattre et que nous avons à éloigner de nos vies. C'est un peu, j'allais dire, la mission difficile que nous avons à exercer dans notre vie. Pourtant, je l'ai déjà dit la semaine dernière, je crois, et je le redis cette semaine, nous ne sommes pas simplement des pécheurs. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Et je vous assure que cette petite mention change tout. Car si nous étions des pécheurs sans pardon, eh bien, honnêtement, il y aurait de quoi désespérer. Mais nous ne sommes pas des pécheurs simplement, nous sommes des pécheurs pardonnés. C'est-à-dire que nous sommes regardés avec par Dieu avec un amour infini. Dieu ne voit pas simplement ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de beau en nous. D'autant plus que, comme vous le savez, ce qu'il y a de bon et de beau en nous, c'est lui qui nous l'a donné. Et donc Dieu n'est pas en train de se contempler lui-même, en train de voir toutes les belles choses qu'il réalise en nous. Mais au contraire, son amour est authentique parce que justement, il accepte de porter avec nous ce qui vient défigurer son image en nous, le péché. Je dis souvent que la preuve qu'on aime quelqu'un, ce n'est pas qu'on aime ses qualités. Ça, tout le monde peut le faire, hein. La preuve qu'on aime quelqu'un, c'est qu'on aime ses défauts et ses limites. Je n'ai pas dit qu'on l'aime malgré ses défauts ou ses limites, ou en faisant abstraction de ses limites. Non, aimer quelqu'un, c'est l'aimer tel qu'il est, tel qu'elle est, avec ses limites, avec ses fragilités, avec sa vulnérabilité. C'est cela, aimer quelqu'un. Et donc, c'est ce que fait Dieu avec nous. Je me suis permis de sélectionner un psaume pour parler précisément de cette expérience que nous faisons d'être sauvés. Il s'agit du psaume 36. Ce psaume exprime de manière admirable notre situation et la manière dont nous pouvons nous en tirer. Je vous ai dit 36, pardon, c'était 31. Pardonnez-moi. 31, le psaume 31. Heureux l'homme dont la faute est enlevé et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Et alors écoutez ensuite la manière dont la situation du pécheur est décrite. C'est extraordinaire. Je me taisais et mes forces s'épuisaient à gémir tout le jour. Ta main, le jour et la nuit, pesait sur moi. Ma vigueur se desséchait comme l'herbe en été. Je t'ai fait connaître ma faute. Je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De champs de délivrance, tu m'as entouré. Je m'arrête là. Vous avez remarqué le trajet psychologique du pécheur. Il est écrasé par son péché. Ça habite sans cesse sa mémoire. Et il ne sait pas ce qu'il va devenir. Et tout à coup, il comprend qu'il doit le déposer devant Dieu. Et là, il fait cette expérience absolument extraordinaire d'être libéré de son péché. Il y a même une parole étonnante dans ce psaume qui dit, comme vous l'avez entendu avec moi, « Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. » Ah, c'est intéressant. On n'aurait peut-être pas dit ça spontanément. Hein. Je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Alors pourquoi est-ce que je peux rendre grâce au Seigneur comme ça, en confessant mes péchés? Eh bien parce qu'en confessant mes péchés, j'atteste que Dieu est miséricordieux. Et d'une certaine manière, je glorifie Dieu. Je glorifie la miséricorde divine. Je reconnais à quel point Dieu m'aime, à quel point il est capable de me venir en aide et de me guérir de mon péché, de me délivrer de mon péché. Alors comme évidemment, je ne parle pas que du péché en général, mais que j'ai pris le parti de parler des péchés capitaux, je vais vous parler aujourd'hui d'un des sept péchés capitaux que l'on intitule l'avarice. L'avarice. Pourquoi est-ce un péché capital? Eh bien, nous allons essayer de le comprendre ensemble. Et je vous cite d'abord une parole de saint Ambroise de Milan. Vous savez saint Ambroise, hein, celui qui a baptisé saint Augustin. Saint Ambroise de Milan, au 5e siècle. Dieu ne nous jugera pas sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Intéressant, hein? Et vous comprenez, à travers ce péché capital qui est l'avarice, il y a quelque chose qui correspond à l'appât du gain. Voilà, le désir de posséder. Le désir d'avoir de plus en plus de choses matérielles autour de soi. Disons que ça, c'est au moins un des premiers aspects, j'en aborderai d'autres. Je ne sais pas si vous avez aperçu un SDF ces jours-ci, pas loin d'ici, avec trois chariots. Et les trois chariots étaient pleins de chose qu'il avait ramassée. Trois chariots, vous savez les chariots avec lesquels on fait ses courses, à Monoprix ou ailleurs. Et en le voyant, j'ai eu beaucoup de compassion pour lui, parce que je me dis, ce pauvre homme, évidemment, il est dans la rue, bien sûr, mais ce qui le maintien en vie, c'est de pouvoir posséder toutes ces choses absolument dérisoires qu'il a accumulées au fur et à mesure, et qui remplissent trois chariots. Et donc, il se promène avec ces trois chariots. Alors ça, c'est l'exemple extrême, évidemment. C'est l'exemple de quelqu'un qui, psychologiquement, a besoin d'être accompagné. Mais vous avez peut-être entendu parler du syndrome de Diogène. Tant qu'on n'en a pas vraiment fait l'expérience, on n'imagine pas trop ce que c'est. Moi, j'en ai fait l'expérience un jour avec une personne qui était venue me voir, qui avait été religieuse, qui avait dû quitter la vie religieuse. Et un jour, elle m'a invité chez elle. Que n'a-t-elle fait là? C'était un véritable capharnaüm. On ne pouvait même pas marcher de front dans le couloir. Il fallait marcher comme ça. C'était plein à gauche jusqu'en haut, à droite jusqu'en haut. On arrive dans ce qui pourrait être une salle à manger, tout était plein. Tout était plein partout. Et elle me montre sa chambre et je découvre que, en fait, elle a un lit, fort heureusement, mais à peine accessible tellement il y a des choses. Et ça, vous voyez, évidemment, c'est de l'ordre de la pathologie. La pauvre, elle n'y peut rien, hein, vous comprenez bien. Mais je me dis, c'est l'expression exponentielle de ce péché de l'avarice qui consiste à accumuler, à vouloir posséder, à accumuler, à vouloir posséder. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est un péché? Eh bien parce que, évidemment, cette attitude a des conséquences. Et on comprend bien quel type de conséquences peuvent jaillir de cela. Si vous voulez, il y a d'abord cette volonté de toujours acquérir, toujours acquérir, toujours acquérir, toujours acquérir. Voilà. Il y a cette volonté, par exemple, de ne jamais faire le tri. Il y a des choses, on les a gardées un temps, on peut accepter de s'en débarrasser. Mais du coup, ça va consister à faire de l'argent le centre des préoccupations. Parce que s'il s'agit d'acquérir, de posséder de plus en plus, sans trop dépenser évidemment, l'argent devient le nerf de la guerre. Et nous entendons la parole de Jésus, « Nul ne peut servir deux maîtres ». Entre l'argent et Dieu, il faut choisir. Pourquoi? Parce que l'argent va devenir une idole. Comment va-t-il devenir de différentes manières? Par exemple, par le fait de travailler de manière excessive, d'être tout le temps en train d'essayer de gagner de l'argent au détriment de son équilibre de vie. Et puis alors, si on est par hasard engagé, je ne sais pas, dans le mariage, qu'on a des enfants, au détriment de sa propre famille. L'avarice va faire que la seule préoccupation qui revient tout le temps, c'est comment acquérir quelque chose, comment gagner quelque chose. Alors ça peut se voir aussi, par exemple, dans... pardonnez-moi, mais je crois que ce n'est pas faux. Hein. Vous savez, les soldes, c'est intéressant, hein, vous savez. Et il y a des gens qui font les soldes et qui achètent des trucs qu'ils ne mettront jamais. Mais ils les ont achetés et ils sont contents. J'avais acheté deux paires de chaussures semblables. Enfin, une noire et l'autre bordeaux. Et pour l'instant, je suis en train d'user la noire, mais elle ne s'use pas beaucoup. Et il y avait la bordeaux qui restait. Et l'autre jour, je reçois un ami. Je lui dis, tu fais combien de pointures? Il me dit, ben, je fais tant. Je dis, ça te ferait plaisir d'avoir des chaussures Bordeaux? Il me dit, bah oui, j'aime beaucoup cette couleur. Et bien, je lui dis, tiens, elles sont neuves, tu peux les prendre. Parce que je me suis dit, mais à quoi ça sert que tu aies ces deux? Et pourquoi vas-je acheter les deux? Parce qu'elles étaient en solde. Eh oui, toujours la même chose. Et vous savez, mine de rien, ces mécanismes, ils sont extrêmement... ils nous rendent prisonniers. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on se dit, si j'achète pendant les soldes, je vais faire des affaires. Sauf que comme je n'aimais pas les choses, je ne fais pas d'affaires du tout. Je conseille souvent aux personnes qui ont tendance à acheter rapidement. Il y a des gens qui disent qu'ils ont des achats un peu compulsifs. Ben, ça peut relever peut-être de l'avarice, hein, c'est-à-dire le désir de posséder. Alors, je leur dis, vous passez devant un magasin, vous apercevez quelque chose qui vous plaît, eh bien, vous laissez passer une semaine pour aller voir si c'est encore là. Et si c'est encore là, éventuellement vous l'achetez. Et si c'est plus là, ben vous aurez fait des économies. Non, mais vous êtes d'accord, on est souvent facilement débordé par tout ce qu'on achète, mais quelque part ça n'est pas ajusté. Voilà, ça n'est pas complètement bon. Non pas qu'il ne faille pas acheter des choses, mais il faut une certaine mesure. Voilà. Mais voyez, dans l'ordre de la possession, on peut être facilement prisonnier de ça. Alors, je voudrais aussi dire quelque chose, c'est que il y a différentes formes d'avarice. Il y a différentes manières de posséder. Vous savez, on peut remplacer le mot avarice par cupidité. C'est ça, je désire posséder, je désire avoir des choses. Il y a donc ce qu'on pourrait appeler, c'est l'avarice matérielle. C'est-à-dire que, en fait, ça touche à tout ce qu'on peut posséder, tout ce qu'on peut avoir envie d'avoir. Voilà. Mais cette avarice matérielle a des conséquences plus graves quand elle touche la relation aux personnes. Imaginons que j'ai pu mettre de côté de l'argent. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais imaginons que j'ai une famille et qu'un de mes enfants ou mes enfants ont besoin de quelque chose. Et que je me dis, ah oui, mais l'argent que j'ai mis de côté, c'est pour moi. Et que finalement, au lieu de peut-être pouvoir aider un membre de ma famille, je ne vais pas le faire. Alors, je précise ce que je suis en train de dire. On peut me le retourner en disant, mes pères, on ne peut pas non plus se laisser piller par les gens autour de soi. C'est vrai. Mais voyez, la question, c'est surtout, si par hasard j'ai de l'argent de côté, est-ce que je peux envisager sereinement de le prêter, voire même de le donner à quelqu'un? Est-ce que c'est quelque chose qui peut traverser mon esprit, ou alors je me dis, ah non, pas du tout, c'est hors de question? Et on se rend bien compte que dans l'accumulation de l'argent, il y a toujours le risque de ne pas y toucher, voilà, de ne pas s'en servir pour le bien d'autres personnes. Alors il faut faire ça évidemment avec discernement et intelligence, hein, évidemment, parce que sinon on peut se faire rouler, évidemment. Mais la question n'est pas là. C'est mon état d'esprit. Est-ce que je pense pouvoir me débarrasser, me priver d'un peu d'argent que j'ai mis de côté pour le donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin et pour lequel je peux être vraiment quelqu'un qui va l'aider? C'est une bonne question. Il y a un ami l'autre jour qui me dit « Oh, je suis content, j'ai 100 000 euros de côté. » Je lui dis « Mais ça tombe bien, moi j'en ai 1 000. » 100 000 euros, il va pas les mettre, les billets de banque, il va pas les mettre dans son cercueil. Hein. Donc vous voyez, l'avarice peut conduire à un manque de générosité. Je le répète, ça suppose un discernement. Il ne s'agit pas de se laisser dépouiller de ses biens. Mais quand même, voilà, je connais une famille, les parents sont très riches, et donc les grands-parents, enfin les parents des parents, sont très riches et en fait, ils ont beaucoup d'argent de côté, et leur fils et leur belle-fille, avec leurs 5 enfants, avaient besoin de quelque chose pour une réparation urgente dans leur maison. Ils ont demandé aux parents, qui ont dit non, c'est hors de question. Ben, c'est vrai que ça crée une petite souffrance quand même. Hein. Évidemment, il y a la banque. Évidemment, il y a toujours moyen parfois de trouver des gens qui vont nous aider. Mais si des gens proches se dérobent ainsi, c'est un peu dommage quand même. Reconnaissons-le. Et donc, cet aspect, c'est celui du fait que je peux manquer de générosité. J'ai lu ça, je n'invente pas tout évidemment, j'ai lu ça, ça m'a fait sourire. Des gens qui vont passer 3 quarts d'heure dans une grande surface pour voir quel est le prix le truc le moins cher. Alors, en soi, c'est pas bête. Après, ça dépend de la situation des personnes. Mais peut-être que ça les amuse de faire des calculs et de passer, de revenir et de calculer tout ce qui est présenté et de voir ce qui est le moins cher. Il peut y avoir un manque de générosité. Un manque de générosité. Je vais vous faire rire peut-être ou pas du tout, je ne sais pas. Hein. Mais on a remarqué que le fait de collecter la quête avec un téléphone, comme ça se fait ici, comme ça se fait un peu partout, je pense, eh bien, ça fait augmenter le don. Parce que le don initial, c'est 2 euros. Mais quand les gens donnent de la monnaie, ils peuvent donner 5 centimes d'euros. Ah ben, si vous aviez la joie de compter les quêtes, vous verriez que des petites pièces comme ça, il y en a pas mal. Hein. Et c'est vrai que, vous voyez, simplement ce réflexe, quand aujourd'hui la quête est faite et payée avec le système de terminal, eh bien de fait, le don premier, le premier niveau de don, c'est 2 euros. Et mine de rien, ça change les choses, évidemment. Parfois, on aimerait que les quêtes soient moins lourdes, qu'il y ait plus de billets et moins de pièces. Non, je plaisante. Vous êtes très généreux, merci pour votre générosité. Je me permets de faire ces blagues parce que je sais combien vous êtes généreux. Alors, on pourrait imaginer que l'avarice, la cupidité, ça concerne surtout cette espèce d'appât pour le gain, ce désir de posséder, ce désir de thésauriser. On pourrait penser ça. Mais ça peut toucher un autre domaine, et cet autre domaine, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est le domaine spirituel. Ah, ça vaut la peine d'y réfléchir. Le domaine spirituel, une espèce de volonté de s'accaparer les biens spirituels, de vouloir se les approprier, mais de manière un peu excessive, désordonnée. Alors, par exemple, y a par exemple une chose qui peut être une source d'avarice, c'est le temps qu'on donne, le temps pendant lequel nous nous rendons disponibles pour les autres. Alors, souvent, il y a des gens qui me disent « Excusez-moi, père, de prendre votre temps. » Et je leur réponds systématiquement « Ne vous inquiétez pas, il est fait pour être pris. » On ne prend pas le temps à quelqu'un qui est là pour vous. C'est normal. Mais voyez qu'on peut être parfois avare de son temps, c'est-à-dire, là aussi, thésauriser pour soi au lieu de se mettre au service des autres. Ça peut toucher beaucoup de choses. Hein. Ça peut toucher, par exemple, le fait d'aller visiter un malade. On n'y va pas parce que ça prend du temps. Oui, c'est vrai, ça prend du temps. Et ça prend de l'énergie, c'est vrai. Et pourtant, heureusement que parfois, nous faisons l'expérience d'aller au-devant des autres et de leur donner de notre temps. Vous le savez par expérience, il n'y a rien de plus blessant que quelqu'un qui nous dit qu'il n'a pas le temps. Vous allez vers quelqu'un en lui demandant quelque chose et c'est important pour vous, et la personne vous répond « j'ai pas le temps, venez plus tard ». C'est difficile parce que le temps fait partie de ces réalités que je peux donner. Ou alors ça veut dire que je suis esclave de mon temps. Je peux dire à quelqu'un « je vous prie de m'excuser ». Là, ça n'est pas possible pour moi parce que je suis en train de faire une conférence. Mais si vous le voulez, dans une heure, je suis disponible. Vous voyez, c'est pas la même chose. On dit à quelqu'un ben, « là, tout de suite, je peux pas ». Mais je vous promets, dès que je suis libre, on peut se voir. Ça, on peut le faire. Mais priver quelqu'un de temps, quelque part, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas complètement ajusté parce que le temps nous appartient. Nous ne sommes pas esclaves du temps. Nous ne sommes pas esclaves. Le temps est à notre service. Il faut toujours se rappeler ça. Le temps est notre serviteur. Il est notre allié. Je ne suis pas soumis au temps. C'est le temps qui est soumis à moi. Et ma liberté à moi, c'est d'utiliser mon temps de la manière la plus juste possible. Voilà. Je me rends compte que si je passe 2 heures sur mon téléphone à scroller, donc à aller de vidéo en vidéo, ben là, je perds mon temps. Je perds mon temps. C'est-à-dire que ce temps qui est précieux, qui m'est donné, avec lequel je peux faire tellement de choses, j'en fais un mauvais usage. Et ça, c'est un fléau aujourd'hui, parce que c'est notre mode de fonctionner. C'est-à-dire que on commence, voilà. Et au bout d'une heure, on y est encore. Puis après, vous regardez votre montre et vous dites « Oh là là, c'est pas possible, j'ai passé une heure. » Voilà. Donc, gardons à l'esprit que le temps nous est utile et que l'usage que nous en faisons est une manière d'être généreux. D'ailleurs, frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'il est important de prendre du temps pour prier ? Eh bien parce que le temps, c'est la seule chose que je peux donner à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez que je donne à Dieu ? Tout lui appartient, tout vient de lui. Ce que je le suis par sa grâce. Donc, c'est Dieu qui m'a tout donné, à qui je donne du temps. Quand je décide de prier pendant une demi-heure, eh bien, je dis, Seigneur, ce temps que j'aurais pu utiliser à autre chose, ce temps, il est pour toi. C'est un cadeau pour toi. Je n'en attends même pas quelque chose. Oh là, vous rendez compte, la liberté et le caractère, comment dirais-je, désintéressé. Je te donne du temps, Seigneur, parce que c'est toi, pour te montrer que tu es premier servi dans ma vie. Je te donne le temps, je te donne ce temps, et il t'appartient. Alors vous avez remarqué que quand on fait ça, toutes les 5 minutes, on regarde sa montre. Oh là là, il reste encore 25 minutes. Oh là là, il reste encore 20 minutes, mais c'est pas possible, quand est-ce que ça va finir? Vous voyez, on part avec des bonnes intentions, « Seigneur, je te donne ce temps !» Et en fait, dans la réalité, on est toujours pareil, quoi. On se dit « Non mais il se passe rien, Dieu me parle pas, pourquoi je passe ce temps-là » Voilà. Eh bien, vous savez, frères et sœurs, un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à Dieu, c'est de lui donner du temps. Même chose évidemment dans la manière d'occuper ma vie. On est toujours dans la question de l'avarice, hein, toujours dans la question de l'avarice. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais faire pour faire que ce temps qui m'appartient puisse servir de temps en temps pour le bien des autres. C'est-à-dire concrètement le service des autres. Comment est-ce que je peux me mettre au service des autres de manière appropriée, de manière équilibrée, mais il faut que ça fasse partie de ma vie. Il faut absolument que ça fasse partie de ma vie. Parce que si cette dimension n'est pas du tout présente, bah, c'est peut-être un peu dommage. C'est un peu dommage parce que je passe à côté d'une des dimensions de mon existence qui est de me mettre au service des autres. Et là aussi, vous voyez, ce que je suis en train de dire, ça parle de la générosité. Et donc, on peut être avare. On peut être avare en service qu'on rend aux autres. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une bonne raison de ne pas faire quelque chose, et parce qu'on se donne toujours l'excuse de ne pas faire telle ou telle chose. Voilà. Un jour, j'avais confessé à un jeune homme, c'était il y a très 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 longtemps, c'était pas ici, donc vous le connaissez pas. Il vient demander pardon à Dieu, entre autres, parce que il a pas écrit à sa grand-mère. Alors moi, évidemment, dans ce genre de situation, j'aime bien creuser. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je dis, mais vous ne lui avez pas écrit, mais vous ne lui avez pas téléphoné? Non, je ne vais pas téléphoner, je ne vais pas écrit. Et ça fait combien de temps? 1 an. Ça commence à faire beaucoup. Et je dis, et votre grand-mère, elle habite loin? Non, l'escalier à côté. Eh bien, je dis, vous savez ce qu'il vous reste à faire en sortant d'ici, hein? Vous allez aller frapper à la porte de votre grand-mère. Voilà, et vous voyez, ce manque de générosité. On comprend bien que ce garçon de 18 ans, peut-être 17, 18 ans, oui, il a plein de choses à faire, il a ses copains, il a ses cours, il a ceci, mais quand même, sa grand-mère qui habite l'escalier à côté, ça fait 1 an qu'il ne l'a pas vue. Enfin, ça ne va pas du tout, quoi. Et donc, vous voyez que finalement, l'avarice, finalement, c'est un péché qui nous touche beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Beaucoup plus. Et puis, il y a cette expérience qu'on peut faire également dans la vie spirituelle, où on est trop habité par une certaine cupidité. J'ai le livre sous les yeux, c'est le livre du père Pascalide sur les 7 péchés capitaux. Il explique des personnes qui vampirisent un prêtre. Vous savez? Alors, elles lui demandent d'être leur père spirituel, toc, et puis après, elles lui demandent de le voir toutes les semaines, paf! Et puis après, elles demandent de se confesser tous les 2 jours, paf! Et donc, vous voyez, on s'approprie un bien spirituel, on s'approprie quelque chose, et c'est pas ajusté, évidemment. Évidemment que c'est pas ajusté. Alors le prêtre peut-être être un peu timide ou un tout petit peu réservé, donc il va accepter, mais ça n'est pas ajusté, quoi. Il arrive un moment où... et en plus, elle vient à la messe tous les jours avec lui. Voilà. Donc il y a une manière de faire qui peut être effectivement inadapté. Alors, est-ce que nous sommes condamnés à vivre cela, et est-ce que finalement notre vie va se passer à être des êtres cupides, avares, préoccupés par ce que nous possédons, préoccupés par l'argent, préoccupés par tous ces objets que nous avons et que nous gardons précieusement? Est-ce que nous allons passer notre vie à ça? Alors, moi j'ai remarqué une chose, c'est qu'il se trouve que comme prêtre, ça nous arrive de déménager, tous les 6 ans normalement, voire plus. Et donc, quand on déménage, on fait des cartons. Et les cartons, on les met dans le nouvel appartement où on arrive. Et parfois, il n'y a pas suffisamment de place, donc on les met à la cave du presbytère. Et il y a un principe, si au bout de 3 ans, je n'ai pas ouvert le carton, je peux le jeter comme ça, c'est qu'il ne m'a pas manqué. Je peux vous dire que ça permet de dégager les choses. Hein. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce qui nous permet de nous désencombrer de cette avidité, qu'est-ce qui permet de nous en désencombrer ? C'est précisément la capacité de dire, allez, ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, c'est bon. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est dur? Pourquoi est-ce que c'est si dur? Eh bien, parce que souvent, évidemment, ce que nous possédons est aussi lié à des personnes que nous aimons, que nous avons aimées, des personnes qui peut-être aujourd'hui sont décédées. Et donc, tout cela, évidemment, on se dit, ben je, non, non, mais je veux pas y toucher, je veux le garder. Voilà. Mais peut-être qu'il est bon de temps en temps de se dire, allez, voilà, Seigneur, j'accepte de me débarrasser de choses dont j'ai peut-être pas objectivement maintenant besoin. L'autre chose, c'est que une bonne manière de lutter contre l'avarice, c'est la capacité de remercier Dieu pour ce qu'on a. Parce que si je prends un peu plus conscience de ce que je possède et que je me rends compte que beaucoup d'hommes et de femmes en ce monde n'ont pas le dixième que j'ai de ce que j'ai, eh bien ça m'aide à me dire arrête de vouloir posséder, arrête de vouloir agrandir ton capital, arrête d'être dans cette attitude. Voilà, essaie de te contenter de ce dont tu as besoin. Et c'est tellement important. Vous savez, c'est très important. La jalousie, j'en parlerai évidemment un jour, un vendredi, la jalousie, c'est cette attitude qui me fait regarder dans l'assiette du voisin, en découvrant que le voisin a plus que moi. Et c'est intolérable, insupportable. Mais en fait, ça pourrit ma vie. Ça rend ma vie impossible. Et donc, vous voyez, la capacité que je peux avoir de temps en temps de faire le tri, de dire, allez, ça, je n'ai plus besoin. Allez, ça, j'accepte de le donner. Eh bien, en fait, je trouve que c'est déjà une bonne manière de lutter contre cette tentation de l'avarice. L'autre chose, c'est donc de pouvoir reconnaître ce que j'ai, rendre grâce, et donc de ne pas être toujours en train d'accumuler. Parfois, je suis dans ma chambre, enfin dans mon appartement. On est très bien logés, les prêtres. Hein. Non, mais c'est vrai. Vous savez, honnêtement, on n'a pas à se plaindre. Hein. Honnêtement, c'est tout à fait correct. C'est ça que je veux dire, c'est tout à fait correct. Et donc, je suis dans mon salon, ou dans mon bureau, ou dans ma chambre, et je regarde tout ce que j'ai. Et je me mets à penser à Joseph, Marie et Jésus dans leur maison de Nazareth. Et bien, je peux vous dire que je suis absolument certain qu'ils n'avaient rien de tout ce que j'ai dans ma chambre et dans mon bureau. Hein. Et ça les a empêchés de vivre? Non. Déjà, ils n'avaient pas de croix. Hein. Ils n'avaient pas de croix au mur. Jésus n'était pas encore mort. Mais en fait, dans la réalité, parfois, on a besoin de se dire, mais allez, un peu de simplification. Ça me fait tellement de bien. Et puis, une bonne manière de lutter contre tout cela, c'est évidemment de concevoir sa vie comme une manière de servir les autres. Parce que spontanément, quand je sers les autres, je sors de moi-même, je me décentre de moi-même, je ne suis plus en train de me regarder moi avec ce qui m'appartient, avec ce que j'ai, etc. Je suis en train de vivre une expérience qui me fait du bien. Et donc, tous les services qu'on peut possiblement faire, qui sont adaptés à notre situation, que l'on peut faire, eh bien, c'est génial. Tiens, je vous raconte une petite histoire. Quand j'étais enfant, le mercredi, évidemment, il n'y avait pas d'école à l'époque, et donc le midi, je déjeunais avec ma maman, et ma maman, avant le repas, partait avec un plateau avec les mêmes choses qu'on allait manger, qui venaient d'être chauffées. Et elle partait avec son plateau, elle traversait la rue, et de l'autre côté de la rue, il y avait une petite maison, et il y avait une vieille grand-mère qui était là, et qui était paraplégique, qui était hémiplégique, pardon. Évidemment, il fallait lui porter la nourriture, parce qu'elle était toute seule, et elle pouvait pas s'en occuper. Donc tous les jours, en fait, ma maman, moi je le voyais le mercredi parce que j'étais là, mais tous les jours, ma maman, elle lui portait son repas. Et alors, de temps en temps, je demandais à maman si je pouvais y aller, évidemment. Et quelle joie de voir cette dame qui était rayonnante, joyeuse, en train de manger la même nourriture que celle que nous avions mangée quelques minutes plus tard. Mais voyez, c'est des petites choses, ça. C'est de toutes petites choses. Mais en fait, ça fait du bien. Ben oui, tant qu'on peut faire du bien aux autres, tant qu'on peut se mettre au service des autres, ça, c'est merveilleux. Et puis, dernière chose, je terminerai par là, c'est que, puisque l'avarice nous, nous conduit à être centrés sur nous-mêmes, eh bien, il faut que nous apprenions de plus en plus, à nous tourner vers Dieu. Et ça, c'est la grâce de la prière en particulier, mais la grâce aussi de ce que nous faisons dans la journée. Parfois, il y a des gens qui me disent, vous savez, Père, j'ai pas le temps de prier. Le matin, je commence très tôt mon travail, je finis très tard le soir. Ah, je dis, mais oui, mais il y a une chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Quand vous arrivez à votre travail, prenez deux minutes, et vous dites à Dieu, Seigneur, je te présente et je t'offre tout le travail de cette journée. Je te fais l'offrande de ce travail. Je veux le faire pour ta gloire. Ben, ça y est, toute votre journée est devenue une prière. Pas mal quand même. Ben oui, on peut se rattraper parfois quand on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, que Dieu soit premier servi, que Dieu soit au centre. En fait, pourquoi est-ce que l'avarice n'a pas de sens? Alors, excusez-moi, là, je vais dire quelque chose de dur. Hein. Vous êtes prêts, hein? Vous êtes assis. Parce que, frères et sœurs, nous recevons tout de Dieu. Tout. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, nous dit saint Paul. Mais je vais vous dire encore quelque chose de plus difficile à entendre. Au moment de partir de ce monde, au moment de notre mort, il faudra accepter de tout perdre. Tout perdre. Pour tout gagner de l'autre côté, parce que Dieu nous accueille et qu'il nous donnera la vie. Mais voyez, le fait qu'à un moment de notre vie, il nous faudra accepter de tout perdre, c'est quelque chose de que je me dis souvent, mais que j'ai du mal à réaliser un peu, et pourtant je me dis que c'est pourtant ça le sens de notre vie. Hein. Arriver au moment où, parce que nous faisons confiance en Dieu, parce que nous aimons Dieu par-dessus tout, nous serons capables de tout lui donner, de tout perdre, pour tout recevoir de lui. La vie en plénitude. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est une grande sainte, comme vous le savez. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, dans son acte de consécration à l'amour miséricordieux, l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, qu'elle a rédigé au mois de mai 1895, 2 ans avant sa mort, le jour de la fête de la Sainte Trinité. « Mon Dieu, je désire vous aimer et vous faire aimer. » Ça commence très très bien. Et à la fin de cet acte d'offrande, elle dit « Seigneur, je paraîtrai devant vous les mains vides, car toutes nos œuvres ont des taches à vos yeux. » Je paraîtrai devant vous les mains vides. Vous vous rendez compte? Quelle liberté intérieure! Thérèse, elle va pas arriver avec toutes ces histoires, toutes ces réussites, etc. Non, non. Les mains vides devant Dieu. Les mains vides. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle va tout recevoir de Dieu. Eh bien, voyez, la lutte contre l'avarice, c'est accepter de ne pas tomber dans un piège qui nous enferme dans la vie présente comme si elle était éternelle et comme si les biens dont nous jouissons aujourd'hui sont là pour toujours. Voilà, c'est donc une expérience de dépouillement que de lutter contre ce péché, une expérience de libération aussi, de liberté intérieure, mais qui est tellement, tellement important pour chacun de nous. Nous allons confier ça à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Merci et à la semaine prochaine.